Campus.
Craignant l'escalade, le secrétaire général de l'ONU condamne tout acte de représailles au Moyen-Orient après les explosions de ce matin à l'aube en Iran. La communauté internationale s'inquiète d'une nouvelle confrontation directe entre l'Iran et Israël. À la une également, les interrogations du Qatar, médiateur dans les pourparlers israélo-palestiniens, qui s'interroge sur son rôle, de plus en plus critiqué, on le verra, par ses alliés. Dans ce journal, nous irons en Italie, accusé par l'extrême droite de participer au trafic en Méditerranée. Les ONG humanitaires secourant les migrants en mer ont finalement obtenu justice. Et puis enfin, à 48 heures de la journée des vocations qui se tiendra dimanche, nous irons au Cambodge. Le vicaire de Phnom Penh nous parlera de la vitalité de l'église locale.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Entre l'Iran et Israël, les représailles prendront-elles fin? Après l'attaque contre le consulat iranien à Damas, les drones et missiles envoyés par Téhéran le week-end dernier sur Israël, il y a donc eu à l'aube ce matin trois explosions de petits drones sur une base militaire près d'Ispahan en Iran. L'épisode a provoqué ce vendredi des appels à la retenue, à la désescalade en cascade à travers le monde, signe d'une vive préoccupation au sujet de l'ouverture d'un éventuel nouveau front de guerre. Jean-Benoît Harel.
Oui Marie, le risque d'embrasement de la région reste extrêmement fort après les frappes de missiles et de drones entre Israël et l'Iran, mais semble s'atténuer. La communauté internationale appelait les deux pays à la retenue depuis plusieurs jours déjà, une direction que semblent prendre les deux pays. Plusieurs analystes estiment que la frappe de ce matin attribuée à Israël signe le point final de l'escalade militaire entre les deux pays, initiée après la frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas. Cette attaque mesurée montre la capacité d'Israël à frapper sur le sol iranien, mais elle n'a touché aucune infrastructure importante. De son côté, Téhéran semble tempéré, a relevé une simple attaque sans missiles et ses installations nucléaires sont en sécurité. Ces installations nucléaires, justement, sont très sensibles pour Téhéran, son objectif étant de poursuivre son programme nucléaire, gage de survie pour le régime. Alors certes, Israël a outrepassé les demandes internationales de ne pas réagir, mais pourrait peut-être s'arrêter là dans le conflit ouvert engagé contre l'Iran. Toutefois, le pays a déjà intensifié ses raids dans le sud du Liban contre le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran.
Merci Jean-Benoît Harel. Et puis cette dernière poussée de fièvre intervient alors que la guerre entre Israël et le Hamas ne connaît pas de répit. Les Palestiniens déplorent la mort de plus de 34 000 des leurs à Gaza, essentiellement des civils, 42 ces dernières 24 heures, car les bombardements se poursuivent et les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu piétinent. Il y a deux jours, le Premier ministre qatari lui-même, Al-Thani, partageait son pessimisme concernant une prochaine solution négociée. Doha, médiateur clé du conflit entre Hamas et Israël, qui est de plus en plus sous pression de ses alliés américains ou israéliens, dont certains demandent de réévaluer leurs relations avec le pays du Golfe. Le doute s'installe au Qatar. L'éclairage de notre correspondant régional, Bastien Bory.
Loué pour son rôle d'entremetteur dans les conflits afghans, libyens et tchadiens, le Qatar découvre, cela dit, au Proche-Orient les limites de son pouvoir. Un manque d'influence qui lui est publiquement reproché par un Premier ministre israélien et des parlementaires américains, certes guidés par des intérêts électoraux, mais dont les critiques ne sont pas si exagérées que cela. Car sur le terrain, plus les troupes israéliennes avancent dans Gaza, plus les chances de voir le Hamas négocier s'amenuisent. Et le Qatar en paie un prix, celui de voir son image de médiateur écornée, d'où ses menaces proférées aujourd'hui. Pour autant, il est peu probable de voir les Qataris prendre leur distance, eux qui cherchent au contraire à maintenir le Hamas en vie pour conserver un moyen de pression sur Israël. Quant aux rumeurs supposant que Doha envisagerait de chasser les leaders palestiniens vivant en exil sur son territoire, elles aussi semblent infondées, tant le Qatar y perdrait au change. Faire de la médiation dans le conflit israélo-palestinien au profit des États-Unis, c'est pour ce pays du Golfe un moyen de s'assurer que les Américains investissent en retour à Doha, vendent des équipements militaires et soutiennent les intérêts qataris dans le monde. Bastien Bory dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
Et ce vendredi, un moment de vive inquiétude à Paris, le consulat iranien a lancé une alerte. Un homme aurait été perçu entrant dans leurs locaux avec un gilet d'explosifs. Ces derniers seraient factices, mais des menaces auraient été formulées. L'homme né en Iran et opposé au régime en poste avait déjà été condamné pour des faits d'agression. Il a été interpellé par la police. Un geste pour la planète et pour les générations futures. Aux États-Unis, le gouvernement Biden a placé aujourd'hui en zone protégée une vaste région dans l'ouest de l'Alaska, connue pour ses ours polaires, ses grizzlies, mais surtout pour être la réserve de pétrole du pays. pays. La mesure permet désormais d'interdire l'attribution de nouveaux bails d'exploitation pétrolière ou gazière sur des dizaines de millions d'hectares. Veille de vote au Congrès ce samedi, les parlementaires américains sont appelés à se prononcer sur un paquet d'aides financières et militaires à l'Ukraine pour un montant de 61 milliards de dollars. En Ukraine, l'armée de l'air revendique avoir abattu un bombardier stratégique russe, aujourd'hui une première depuis le début de la guerre. Moscou évoque la mort d'un membre d'équipage dans le crash d'un appareil, mais parle de défaillance technique. C'était en mars dernier, l'ancien bras droit d'Alexeï Navalny était brutalement agressé dans la rue en Lituanie. Ce vendredi, le premier ministre polonais annonce l'arrestation du commanditaire bélarusse de l'attaque commise par deux Polonais contre Léonid Volkov. En Italie, c'est une victoire attendue depuis 7 ans par les ONG de sauvetage en mer. La justice vient de reconnaître que les navires humanitaires ne sont pas complices des trafiquants de migrants. Une décision qui va à l'encontre du narratif de l'extrême droite au pouvoir, alors que l'extrême droite, justement, décide de durcir encore ses règles migratoires. Blandine Hugonnet.
C'est une affaire classée par la justice italienne, mais qui restera médiatisée et exposée par les ONG. Jugendrettet, Médecins sans frontières, mais aussi Save the Children. Les organisations allemandes, britanniques et françaises se félicitent de cette décision attendue de longue date, depuis 2016 précisément, alors que le nombre d'arrivées d'exilés explosait cette année-là sur les côtes italiennes. En Sicile, notamment à Trapani, c'est là que les juges ont lancé, il y a 7 ans, cette enquête, puis les procédures préliminaires contre les équipages de 3 navires, avec agents infiltrés sur un bateau et mis sur écoute d'humanitaires, d'avocats et de journalistes, risquant jusqu'à 20 ans de prison pour aide à l'immigration illégale entre la Libye et l'Italie. Ce vendredi, la moitié des prévenus ressort blanchie en raison de témoins peu crédibles, donc d'accusations sans fondement, ont admis les procureurs italiens. Une victoire pour ces ONG qui voient dans cette affaire l'origine de la criminalisation de leur mission en navire, surnommée dès lors Taxi de la mer. Une victoire aussi contre l'extrême droite et le gouvernement de Giorgia Meloni, qui depuis son arrivée au pouvoir durcit les règles contre les ONG, entravant les sauvetages alors que les traversées de la Méditerranée s'intensifient depuis le début de cette année sur la route maritime la plus meurtrière. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Pour un islam juste et pour combattre les discriminations, ce vendredi, des mosquées et leaders musulmans se sont unis au sein d'une alliance européenne baptisée Amal à Paris. Il s'agit donc de mieux se connaître, de se coordonner pour lutter contre l'incompréhension, l'intolérance, le racisme et remplir les espaces vides dans lesquels s'immisce et grandit, dit-il, l'extrémisme. En Croatie, le président est de facto candidat au poste de Premier ministre après avoir fait campagne comme tel avant les législatives de mercredi. Eh bien, il ne pourra pas prendre la tête d'un gouvernement, tel en ont décidé les juges de la Cour constitutionnelle. Des élections XXL ont commencé en Inde aujourd'hui. 6 semaines de vote, 970 millions d'électeurs convoqués aux urnes pour des législatives. Que compte bien remporter le BJP, le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, le Premier ministre en poste depuis 10 ans. Au Cambodge, 200 jeunes catholiques ont convergé vers la capitale Phnom Penh aujourd'hui pour un grand rassemblement de 3 jours à l'occasion de la 61e journée mondiale des vocations ce dimanche. Une journée que le pape a voulu placer sous le signe de l'espérance en vue du jubilé au Cambodge. Cette rencontre témoigne d'un élan, d'une belle dynamique de vocation sacerdotale et religieuse. C'est ce que nous explique le vicaire apostolique de Phnom Penh, Mgr Olivier Schmidhausler.
On peut dire quand même que ces dernières années ont été des belles années. J'avais mis en place en 2014 des nuits de prière pour les vocations une fois par mois et on a eu 100 nuits de prière entières pour les vocations et ça porte des fruits. Actuellement, on a 4 séminaristes, un séminariste qui est en Thaïlande et 3 qui sont à Phnom Penh qui étudient la théologie. Et cette année, on a eu le grand bonheur d'avoir 7 entrées en propédeutique. C'est la première fois, en fait, depuis des années qu'on a une propédeutique aussi conséquente. On a 7 jeunes qui ont commencé la première année de propédeutique. Et en 2023, j'ai ordonné 3 prêtres cambodgiens. J'ai ordonné le premier prêtre jésuite cambodgien aussi. Donc voilà, un petit peu, pour une si petite église, parce que rapportée à 20 000 catholiques, avoir 13 prêtres cambodgiens actuellement, plus quelques religieuses aussi, en particulier les amantes de la croix et quelques sœurs salésiennes cambodgiennes. C'est un beau signe d'espérance pour notre Église.
Des propos recueillis par Vianney Groussin. Et ce matin au Vatican, le pape a reçu 6000 élèves et enseignants du réseau national italien des écoles de la paix et les a félicités pour leur initiative de formation d'activités qui vise à promouvoir une nouvelle vision du monde. Il les a exhortés à semer jour après jour les graines de paix, des graines de paix avec enthousiasme dans la poursuite d'objectifs de beauté et de bonté au milieu de situations dramatiques d'injustice, de violence qui défigurent, dit-il, la dignité humaine. Et puis enfin, le Kenya a entamé aujourd'hui 3 jours de deuil national après la mort hier dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de 9 hauts responsables militaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient lundi matin à 8h30. D'ici là, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet vaticannews.va. Excellent week-end à tous.